VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 5h du matin, bon réveil, bienvenue sur VOA Afrique. La France va demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution marquant la volonté commune de lutter contre le terrorisme. Parallèlement à l'enquête sur les attentats qui ont fait au moins 129 morts et 352 blessés vendredi soir. Cette enquête s'est donc accélérée, mettant en lumière des ramifications internationales avec plusieurs arrestations en Belgique et la traque d'un djihadiste belge, Abdelhamid Abaoud, suspecté d'en être l'inspirateur. Devant les parlementaires français exceptionnellement réunis en congrès à Versailles, le président François Hollande, dans une allocution au ton martial, a affiché sa détermination à détruire et non pas seulement contenir l'État islamique qui a revendiqué la tuerie. Pourquoi les terroristes ont-ils choisi les quartiers passants populaires? Réponse du politologue et sociologue français Vincent Jesser, contacté par Anastasie Toudiech.
Là, je pense que Paris, c'est clair que c'est parce que c'est le symbole de la capitale d'un pays qui est aujourd'hui fortement engagé dans le conflit syrien, et notamment fortement engagé au sens, je dirais, matériel, au sens militaire, mais aussi au sens symbolique, puisque la France a le discours le plus affirmé de lutte contre Daesh. On peut dire même qu'elle a un discours beaucoup plus affirmé que la plupart des autres puissances occidentales. Alors ensuite, pourquoi les quartiers passants?
Oui.
C'est la politique de la terreur, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu observer dans l'histoire du terrorisme, qui sont des cibles souvent politiques et symboliques, tirer comme ça sur toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des lambdas, des citoyens anonymes, c'est une volonté d'entretenir de manière permanente un climat de peur. Plus on frappe Daesh, plus on risque d'avoir les effets collatéraux catastrophiques dans l'espace public français et donc dans cette quasi-impossibilité de sécuriser à 100% l'espace public français, le territoire français aujourd'hui.
Le politologue français Vincent Jesser, contacté donc par Anastasie Toudiech. Le secrétaire d'État américain John Kerry est lui arrivé hier lundi à Paris pour témoigner de la détermination des États-Unis et de la France à lutter contre le terrorisme. Washington et ses alliés bombardent des positions de l'État islamique en Syrie, tandis que Moscou, qui soutient Bachar al-Assad, frappe de son côté des cibles terroristes, en fait pour l'essentiel des groupes armés modérés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le nouveau représentant spécial des Nations Unies en République démocratique du Congo est arrivé à Kinshasa. Maman Sambo Sidiku succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé à la fin du mois d'octobre. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidiku était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il a été nommé début octobre pour diriger la mission onusienne la plus importante au monde, avec près de 20 000 soldats et policiers. En Angola, le procès de 17 jeunes opposants incarcérés depuis le mois de juin a débuté hier à Luanda, et cela sous haute surveillance policière. Claire Morin-Gibou.
Parmi les 17 accusés, âgés de 19 à 33 ans, 15 se trouvent en détention depuis leur arrestation le 20 juin. Deux comparaissent en liberté sous caution. Le rappeur Louati Berao, l'un des accusés, avait mené une grève de la faim de 36 jours. Leur avocat, David Mendes, a affirmé ne pas avoir eu accès au dossier de 1500 pages. Tous les détenus ont dénoncé de mauvaises conditions sanitaires et des violations des droits de l'homme. Des journalistes et des membres du corps diplomatique ont été empêchés d'assister au procès. Ces jeunes sont accusés de rébellion et tentative de coup d'État. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison. La plupart sont journalistes, étudiants, ingénieurs ou même militaires. Ils font partie du mouvement révolutionnaire d'Angola, opposé au président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979 et dont ils demandent le départ. Le procès devrait se poursuivre jusqu'à vendredi.
Au Burundi, le directeur du groupe de presse Iwachu, un hebdomadaire de Bujumbura, a comparu hier devant la Cour suprême dans l'affaire du coup d'État manqué du 13 mai dernier. Antoine Kabourae, qui a aussi la nationalité belge, est le seul responsable de la presse privée qui est resté dans la capitale burundaise. Après 4 heures d'audition, il est retourné chez lui, mais doit rester à la disposition de la justice. Sa défense affirme que rien ne peut l'impliquer dans ce putsch avorté. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans exactement 25 minutes sur La Voix de l'Amérique. Ce sera en compagnie de Tatiana Mosso et de Anne Alberson dans le magazine Le Monde Aujourd'hui. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.